Les par actualités. Bonjour à toutes et à tous, c'est Clotilde Seil au micro de Canal M. Aujourd'hui, en ce 24 novembre 2016, voici les titres de vos par actualités. Le budget 2017 de la STM à Montréal. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle pulmonaire? Nouveau partenariat entre la Fédération des cégeps et le mouvement Santé mentale Québec. Des bureaux de vote plus accessibles, de l'argent supplémentaire pour la recherche sur la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, et des robots porteurs dans des supermarchés. Deux entrevues également à l'ordre du jour aujourd'hui. Marie-France Carrière est une créatrice de bijoux et elle fait travailler des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Et puis Marie Turcotte est directrice générale par intérim à Execo, un organisme de défense et de promotion des droits des personnes ayant une déficience motrice. Elle nous présente l'organisme et un événement un peu spécial qui s'est intitulé « Rebrassons la mobilisation ». Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, le président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, M. Philippe Schnob, et le directeur général de la STM, Luc Tremblay, ont présenté le budget 2017 de la STM qui se chiffre à 1,405 milliards de dollars avec une hausse des dépenses courantes de seulement 0,6% par rapport à l'an dernier. Avoir un bus ou un métro au bon endroit au bon moment tout en ayant des installations en bon état, il s'agit des conditions de base à un service de qualité et la STM l'a très bien compris. Autant l'agglomération de Montréal que le gouvernement du Québec endossent le virage entrepris par la STM qui met le client au centre des priorités. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons haussé de 6% notre contribution de base à la STM, a expliqué le maire Coderre. Ce virage repose sur une amélioration marquée de la capacité de la STM à livrer le service promis aux clients et sur des investissements massifs dans le maintien des infrastructures. Le budget 2017 va encore plus loin avec des investissements majeurs dans l'amélioration du service. Concrètement, le métro de Montréal n'aura jamais offert un tel niveau de service et le réseau de bus sera amélioré dans plusieurs secteurs. Ces améliorations seront apportées sans aucune hausse tarifaire en janvier, a ajouté M. Schnob. Du côté du métro, 5 millions de kilomètres voitures seront ajoutés, la plus importante hausse depuis l'ouverture des trois stations à Laval. Cette bonification du service permettra d'offrir un meilleur service en pointe et d'assurer un intervalle maximal de 5 minutes entre deux trains durant la soirée. Pour ce qui est du réseau de bus, 100 000 heures de service seront ajoutées, la plus importante hausse depuis 2012, dont 50 000 dans le cadre des mesures d'atténuation liées au grand chantier. Quant au transport adapté, nous anticipons une augmentation de 5 % par rapport à 2016 pour atteindre le cap des 4 millions. Pour une cinquième année consécutive, la STM maintient son engagement malgré le plafonnement de la subvention en 2012. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle pulmonaire? C'est un trouble des vaisseaux sanguins qui affecte les poumons, écrit pour nous Marc-André Couillard. La pression dans l'artère qui relie le cœur aux poumons est plus élevée que la normale. Le côté droit du cœur doit travailler de 3 à 5 fois plus fort pour donner du sang aux poumons afin qu'il soit oxygéné. Il s'agit d'une maladie rare qui touche environ 20 personnes par million. Environ 75 % des personnes atteintes sont des femmes. Cette maladie touche souvent les jeunes adultes, mais elle peut apparaître à n'importe quel âge. Cette maladie provoque de l'essoufflement et une grande fatigue au moindre effort. Elle peut provoquer une faillite cardiaque et même entraîner la mort. Une jeune mère de famille, Judith Moati, a débuté sa carrière de secrétaire juridique dans un grand bureau d'avocats montréalais en 2009. Elle veut étudier le droit à l'Université McGill. Mais tous ses rêves sont permis jusqu'à ce que de banals symptômes l'amènent voir un médecin et le diagnostic tombe et a fait basculer sa vie. Hypertension pulmonaire, HTAP, une maladie rare et incurable. Une des difficultés à poser le bon diagnostic tient au fait que la maladie touche souvent des jeunes qui semblent en bonne santé. La résidente de Sainte-Clotilde a vécu cette situation. Lorsque Mme Moati a été diagnostiquée, très peu de médicaments existaient pour améliorer sa condition. Heureusement, les recherches commencent à porter leurs fruits et il existe désormais quelques médicaments en comprimé que les assurances de Mme Moati permettent de rembourser. En ce mois de novembre dédié à la sensibilisation à la HTAP, la dame souhaite que les médecins poussent davantage leurs examens lorsque des patients se présentent avec des symptômes qui semblent anodins. Elle réclame aussi un meilleur accès aux médicaments qui lui permettent de mener un semblant de vie normale. « Ma vie n'attend pas. Je n'ai pas choisi ce malheur », confie-t-elle. « Ce n'est pas tout le monde qui a accès à des assurances et avec cette maladie, on nous demande de cesser de travailler ». Dès qu'on est diagnostiqué. Alors, les gens qui souhaitent obtenir de l'aide peuvent communiquer simplement avec la fondation HTAPQ. J'imagine si on fait .com, .org, en tout cas si on fait cet acronyme HTAPQ, on doit tomber dessus. Je suis ravie maintenant de m'entretenir avec quelqu'un qui a, ma foi, paré mon poignet droit depuis quelque temps d'une très jolie chose, d'un très, très joli bracelet. C'est Madame Marie-France Carrière. Bonjour, Madame.
Bonjour.
Écoutez, je suis ravie de vous parler. Oui, c'est vrai que je suis tombée amoureuse de ces bijoux de fantaisie-là. Puis je me suis dit qu'avant Noël, c'était peut-être bien d'en parler. Surtout que... Et c'est parce qu'on fait pas là, on n'est pas là pour faire de la publicité pour des bijoux, mais vous faites travailler des personnes qui vivent avec une déficience mentale. C'est bien ça, Madame Carrière?
C'est exact.
Et ça veut dire que ce bijou que je porte là en ce moment, à mon poignet droit, il a été vraiment monté, même créé peut-être, je ne sais pas, par ces personnes-là?
La création, c'est moi qui vais créer
D'accord.
le bijou. Et puis, mais c'est toutes mes filles qui vont faire le montage de A à Z.
Mes filles.
Du bracelet, pardon?
Je dis mes filles, je trouve ça tellement mignon que vous les appeliez mes filles. Qu'est-ce qui vous a amené, Madame Carrière, à cette idée-là de parce que vous êtes une petite entreprise, hein?
Oui.
Et qu'est-ce qui vous a amené à employer comme ça 9 personnes ayant une déficience intellectuelle?
Mais c'est vraiment, c'est un peu un hasard. J'avais pas décidé de m'en aller dans cette direction.
Mm-hmm.
C'est anciennement, j'étais céramiste. Et puis, j'avais besoin de quelqu'un pour faire de l'emballage, de l'étiquetage. Et j'ai une copine qui m'a parlé d'un programme d'insertion sociale.
Oui.
Puis, c'est de là tout a commencé. Puis, j'en ai eu une, deux. Puis là, ils sont avec moi depuis plus de 15 ans.
Depuis plus de 15 ans.
Mais c'est avec moi, pas dans les bijoux, c'est depuis 2009 à temps plein. Mais avant, j'étais 11 ans dans la poterie céramiste.
Ah, en effet. Mais donc, ça veut dire que ces bijoux-là, ils sont sûrement très bien distribués et en grand nombre, quoi. Parce que...
Ah oui, on a à peu près 80 points de vente présentement au Québec.
Oh, d'accord, au Québec. Ah, c'est fantastique. Alors, comment se déroule une journée de travail? Est-ce que c'est une journée de travail normale? Est-ce qu'on fait 7 heures, 8 heures?
Non, ça, c'est beaucoup plus court.
C'est
mais
ça.
Mais un peu comme tout le monde, l'arrivée se fait entre 8h30 et 9h30.
D'accord.
Il y en a qui... certaines filles vont arriver soit en métro, autobus, et d'autres en transport adapté.
D'accord.
10h15, le break. Après, il y a le lunch à midi. Et 1h45, c'est déjà le retour à la maison.
Ah, OK. Donc, c'est vraiment pour la matinée.
Et... C'est un travail qui demande énormément. On est assis, beaucoup de concentration.
Ah, c'est ça, hein?
Beaucoup de manutention. Alors, tu sais, c'est comme à 2h, là, c'est... On est content, tout le monde, de finir notre journée.
Ben écoutez, je l'imagine parce que ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre une photo de ce bracelet que j'ai autour du poignet et on va le mettre sur le site.
D'accord.
Hein, comme ça, là, les gens pourront voir à quel point, effectivement, ça doit réclamer beaucoup de précision. Donc, j'imagine que pour ces jeunes femmes-là, ça doit être extraordinaire par rapport à leur vie et à leur déficience.
C'est certain, ils sont très, très fiers. Puis les filles surtout, mais d'abord, ils aiment énormément les bijoux.
Oui.
Ils sont très fiers. Puis la plupart se sont vus dans les boutiques. Ils peuvent voir le produit qui se fait à l'atelier, le voir sur des personnes, les gens le porter et tout. Fait qu'ils ont une grande fierté. Ils acquièrent beaucoup d'autonomie en venant à l'atelier, justement, se débrouiller, prendre l'autobus, être responsable, responsable de sa station de travail,
mm-hmm.
Que le travail soit bien exécuté. Fait qu'ils viennent chercher beaucoup de confiance en eux.
Et vous, qu'est-ce que ça vous a apporté, madame?
Oh, beaucoup de choses. À relaxer.
Oui.
Aller beaucoup moins vite. Ça m'a appris énormément à vivre dans le moment présent.
Oui.
Vraiment, c'est aujourd'hui, maintenant. Demain, c'est déjà comme pour eux, c'est passé, ça fait longtemps. Puis demain, c'est autre chose. Ça fait que ça, vraiment, on vit dans le moment présent. C'est énormément d'amour.
Oui.
C'est, nous, souvent, on se fait des soucis pour rien.
Oui.
C'est vraiment, on se casse la tête et
c'est
tout.
C'est vrai. Hein? J'imagine que...
C'est vraiment, que... c'est simple.
Oui. Vous ne reviendriez plus en arrière.
Avec la poterie, là, non, je crois pas.
Non, hein? Non, mais même peut-être, vous n'iriez pas maintenant engager d'autres personnes que ces personnes-là.
Ah, mais là, ça serait impossible. ça fait comme 5-6 ans que je travaille pour eux.
Mais oui.
Pour faire la production, c'est comme je devrais... Non, ça, je pourrais pas.
Alors, on trouve facilement ces bijoux-là. Donc, quand vous dites 80 boutiques, c'est... est-ce que c'est...
La meilleure façon, c'est sur notre Facebook, Marie-France Carrière, bijoux et fantaisie.
Parfait.
Il y a le Google Map et puis on voit tous les 80 points de vente.
D'accord. Bon, alors, je vais noter ça. Marie-France Carrière et mon stylo fonctionne pas bien. Bijoux et fantaisie, hein?
Bijoux et fantaisie.
D'accord. Eh bien, écoutez, bravo, parce qu'en plus, le résultat est là. Moi, je suis vraiment, mais vraiment tombée en amour avec ces bijoux-là. Et surtout, quand on m'a dit comment ils étaient faits, et vu que je travaillais à Canalem, j'ai dit, mais il faut à tout prix qu'on invite Mme Marie-France Carrière à nous parler de ça. Alors, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
Et ça fait plaisir.
Et puis, ben, passez une bonne journée, puis bonjour à toutes vos filles.
Certainement. Merci beaucoup.
Merci, au revoir, madame.
Au revoir.
Par actualité régionale maintenant, soucieux de rendre les bureaux de vote plus accessibles aux personnes ayant une mobilité réduite en vue de l'élection partielle du 5 décembre 2016, le directeur général des élections, Pierre Ride, rappelle aux électeurs de la circonscription Marie-Victorin qu'il est possible d'exercer leur droit de vote à domicile ou dans une installation d'hébergement. Pour ce faire, il est nécessaire d'adresser rapidement une demande au directeur du scrutin de sa circonscription, soit... avant la fin novembre 2016. Le proche aidant d'une personne à mobilité réduite domiciliée à la même adresse peut également exercer son droit de vote en même temps s'il en fait lui aussi la demande. Une personne incapable de se déplacer pour des raisons de santé peut voter à son domicile. Vous pouvez vous inscrire en consultant la section « Vote à domicile » sur notre site web ou communiquer avec le bureau du directeur du scrutin de votre circonscription. Voilà. Comme tous les électeurs, ceux qui exercent leur droit de vote à domicile doivent être inscrits sur la liste électorale pour pouvoir voter. Si une personne constate qu'elle peut être admise au vote à domicile et qu'elle n'est pas inscrite sur la liste électorale, elle peut demander à ce qu'une équipe se déplace chez elle pour qu'elle procède à son inscription ou à une modification sur la liste. Le vote à domicile aura lieu les 25 et 26 novembre ainsi que du 29 au novembre, au 1er décembre à 14h. La Fédération des cégeps et le Mouvement Santé Mentale Québec, anciennement l'Association canadienne pour la santé mentale, division du Québec, unissent leurs forces dans le cadre d'un nouveau partenariat visant à rappeler toute l'importance d'entretenir une bonne santé mentale. Ce partenariat prendra notamment la forme d'une nouvelle journée de santé mentale qui sera désormais organisée annuellement dans les cégeps et dont la première édition se déroulera demain le 9 novembre. Pour nous, la santé mentale est un enjeu majeur, surtout quand on sait que plus d'un jeune sur trois souffre d'anxiété au cours de ses études collégiales. Les cégeps sont très actifs en matière de prévention du suicide, de prévention de la radicalisation violente, de lutte contre les violences à caractère sexuel, de prévention de la dépression, du stress et de l'anxiété, mais travaillent aussi depuis longtemps en amont de ces problématiques en promouvant les bienfaits d'une bonne santé mentale. Et je crois qu'il est important de le souligner, les cégeps y consacrent grandement leurs efforts, notamment dans les services psychosociaux des établissements, au cours des dernières années, a indiqué M. Bernard Tremblay, président directeur général de la Fédération des cégeps. À l'occasion de cette journée, plusieurs cégeps organisent des activités spéciales et s'associent à la campagne annuelle du mouvement Santé mentale Québec sous le thème « 7 astuces pour être bien dans sa tête ». La campagne dégage 7 concepts sur lesquels elle invite les jeunes à réfléchir pour renforcer leur santé mentale. S'accepter, agir, ressentir, choisir, découvrir, créer des liens et se ressourcer. Si tout va bien, je devrais parler d'ici quelques secondes à la directrice générale par intérim à Execo, organisme de défense et de promotion des droits des personnes ayant une déficience motrice, Marie Turcotte. Bonjour, Madame Turcotte.
Oui, bonjour.
Madame Turcotte, je voudrais tout d'abord que vous nous présentiez cet organisme-là, Execo, parce que peut-être que bien des gens qui nous écoutent ne la connaissent pas.
OK, Execo est un organisme montréalais faisant la promotion et la défense des droits des personnes ayant une déficience motrice.
D'accord.
Et on a 35 ans d'existence. Mm-hmm. Et on promouvoit l'inclusion sociale, professionnelle et économique des personnes en situation de handicap. Et pour y arriver, on fait beaucoup de la promotion de l'accessibilité universelle.
OK, d'accord. Alors, c'est sur le site qu'on retrouve toutes vos activités, j'imagine, les articles, les blogs et tout ça, alors?
Bien, sur notre site, on trouve les grands thèmes, les dossiers qu'on reporte jour après jour. Mais je dois vous dire qu'il y a un travail de refonte du site qu'on va amorcer prochainement.
D'accord.
C'est pas tout à fait à jour actuellement.
D'accord. Et quand vous parlez de dossiers... pourriez-vous nous donner un exemple ou deux de vos dossiers chauds du moment?
OK, bien nous, on a plusieurs. En fait, on couvre 5 thématiques.
Oui.
Toute la question du transport, autant le transport adapté que l'accessibilité du réseau régulier. Tout ce qui concerne la vie municipale, pouvoir participer aux différents programmes activités que la ville offre aux citoyens.
Mm-hmm.
La question santé et services sociaux, incluant le soutien à domicile, qui est une dimension extrêmement importante pour nos membres,
oui.
L'habitation et la démocratie, bien entendu. Ça fait que ça, on porte ce dossier-là.
C'est lourd, hein? Je dis c'est lourd, ce ne sont pas des petits dossiers, ça là.
Non, c'est sûr, mais c'est des dossiers, comme vous voyez, le transport, santé, services sociaux, l'habitation, c'est des trucs qui sont des conditions de base
hein, oui.
Pour qu'une personne en situation de handicap puisse vaquer, faire des activités et s'inclure dans la société.
Oui, absolument.
Puis pouvoir aussi faire valoir ses droits,
mm-hmm.
Ça prend aussi des instances démocratiques qui sont accessibles pour
oui.
Que les personnes en situation de handicap puissent se faire entendre.
Bien sûr. Bien sûr. Et en dehors de ces dossiers chauds que vous traitez, est-ce que vous rendez des services directs à la population qui en a besoin?
OK. Oui, il y a toute la question de services d'information, référence.
D'accord.
Que quelqu'un, il ne sait pas où il a besoin d'une ressource, d'un emploi, on peut lui indiquer quelles sont les ressources. Effectivement, mais on offre aussi, comme organisme, les services de banque de préposés pour les autogestionnaires. C'est-à-dire, mm-hmm. Il y a des personnes handicapées qui embauchent elles-mêmes leurs préposés. C'est donc, mais des fois, ils savent pas, ils ont besoin d'avoir des noms. Et nous, on offre une liste de noms de banques de gens qui sont intéressés à être préposés à domicile pour des autogestionnaires. Les gens qui sont sur notre liste, notre banque de préposés, ils ont répondu à des critères très spécifiques.
Dites-moi, pardon, excusez-moi, je vous ai interrompu.
Ah, c'est beau. Donc, c'est un service que Execo offre aux autogestionnaires. Puis, comme je vous dis, il y a tout un service d'information, référence, de soutien, voire même des gens qui veulent faire des démarches, mais qui ont besoin d'un coup de main pour les aider, on peut le faire aussi.
C'est très complet.
Oui, mmh. C'est ça.
Bon. Et dites-moi, Madame Turcotte, je voudrais que vous nous parliez de cette journée de réflexion sur la mobilisation en octobre, Rebrassons la mobilisation. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on en a tiré finalement comme conclusion? Qu'est-ce qu'on est ressorti?
On est arrivé à dire, on va faire une activité de réflexion, une journée de réflexion sur la pression de mobilisation, parce que nous-mêmes, depuis 2 ans, particulièrement, on a intensifié l'appel à la mobilisation auprès de nos membres, notamment pour dénoncer toutes les mesures d'austérité que l'on connaît, que l'on vit là, depuis 2 ans, à peu près, de manière plus aiguë.
Oui.
Et là, on s'est dit, on va faire une journée. En fait, c'était tout le grand communautaire, les groupes en défense collective qui étaient invités. Il y avait 45 groupes présents de tout horizon.
Okay.
Les ACF, Habitation, les aînés, femmes, ouais, personnes en situation de handicap. Et ça se voulait comme ça. Et il y avait au-dessus de 65 personnes. Dans l'avant-midi, ce qu'on a fait, on a partagé nos expériences, notre réflexion sur la mobilisation à l'intérieur de 4 ateliers. Ça portait sur le membership, les espaces démocratiques, la mobilisation, c'est quelque chose qui peut être intergénérationnel.
Oui.
Et aussi comment mobiliser au-delà de notre mission. Et c'est ça. Puis dans l'après-midi, il y a eu des panélistes, 4 personnes, qui sont venues présenter des manières différentes de mobiliser les jeunes. Entre autres, toutes les langues du mouvement Occupy.
Oui.
On a eu un panéliste là-dessus. Comment contrer la pauvreté via la créativité et la culture. Et aussi la mobilisation en ligne.
Oui.
Un groupe Facebook et aussi toute la question de l'agriculture urbaine aussi,
ouais,
qui est une façon aussi de faire de la mobilisation citoyenne.
Autrement dit, ça a été très complet
oui,
et ça a été très bénéfique, surtout.
Tout à fait. Et
bon,
cette journée-là, je dois dire qu'on l'a fait conjointement avec le CFP, Centre de formation populaire,
d'accord,
et la table régionale des organismes volontaires en éducation populaire. Et à l'issue de ça, il y a eu beaucoup de gens, mais à la fin, on demandait aux gens quel thème ils aimeraient approfondir advenant qu'on organise une autre journée. On leur proposait 11 thèmes.
Oui.
Et le thème qui a connu la plus grande popularité, c'est comment fidéliser les membres,
oui,
comment favoriser,
oui,
l'engagement. Fait que là, on est en train de faire un bilan de tout cet événement-là.
Eh bien, bravo à vous et à l'organisme Execo, Marie Turcotte. Hein, je vous rappelle que vous êtes la directrice générale par intérim pour le moment d'Execo. On aura plaisir de se retrouver sur nos ondes d'ici quelques semaines.
Ah oui, sûrement, parce qu'il y a plusieurs dossiers sur la table.
D'accord. Alors, vous nous en parlerez. On écoutera ça avec grand plaisir, Mme Turcotte. Bonne journée.
Bien, merci. Bye-bye.
Par actualité nationale, la Société canadienne de la SLA, en partenariat avec la Fondation Brain Canada, a annoncé aujourd'hui l'attribution de 4,5 millions de dollars en financement à 9 nouveaux projets de recherche sur la SLA. Cela signifie que depuis le phénomène de l'Ice Bucket Challenge, le défi du saut d'eau glacée, qui a enflammé les médias sociaux en 2014, près de 20 millions de dollars ont été investis dans la recherche canadienne sur la SLA au moment où celle-ci a le potentiel de donner les meilleurs résultats. Nous remercions les Canadiens qui ont fait un don à l'Ice Bucket Challenge, nos partenaires des sociétés canadiennes de la SLA, la Fondation Brain Canada et le Fonds de recherche sur le cerveau du Canada du gouvernement fédéral d'avoir rendu cet investissement possible. Le partenariat de la Fondation Brain Canada avec la Société canadienne de la SLA a permis d'investir davantage en recherche, ce qui accélère le progrès vers la mise au point de traitements efficace. C'est la présidente et chef de la direction de la Fondation Brain Canada, Mme Japalpour Wala, qui a déclaré ceci. Par actualité internationale, des robots sillonnent les rayons de l'Intermarché d'Auxonne. Ça, c'est en Côte d'Or, en France. Jusqu'au 7 décembre 2016, la grande surface expérimente un dispositif censé venir en aide aux personnes à mobilité réduite. C'est la firme Intermarché, qui est basée à Paris, qui a décidé de cet essai unique en France. Alors, à l'Intermarché, on teste en ce moment et jusqu'au 7 décembre prochain un robot qui suit en silence le client dans les rayons en portant son sac de course. C'est très sérieux. Ce robot à roulette baptisé Ouigo est destiné à aider les personnes à mobilité réduite. Et c'est une société portugaise, comme son nom l'indique, l'entreprise Follow Inspiration, dont le patron est lui-même en fauteuil roulant, qui l'a créé. La firme Intermarché, basée à Paris, a négocié avec Follow pour obtenir Ouigo. Si le groupe juge ces tests concluants, eh bien vous pourriez voir peut-être débarquer dans les rayons dès l'an prochain. On parle évidemment d'en France, ce petit Ouigo, mais allez savoir, peut-être que Ouigo va prendre l'avion à un moment donné et qu'on va également pouvoir profiter de ses services. Un concert de Noël pour Dystrophie Musculaire Canada le dimanche 4 décembre. C'est au profit de Dystrophie Musculaire Canada que sera présenté le concert des Noëls pour Éloi en l'église de Cap-Santé dès 14h. La soprano Marie-Andrée Paré et l'organiste Robert-Patrick Girard promettent alors de combler le public en interprétant des Noëls traditionnels allemands, anglais et français, avec Stille Nacht, Deck the Hall et La Vierge à la crèche, pour ne nommer que quelques pièces. Madame Paré et Monsieur Girard promettent à la fois de plonger les spectateurs dans l'ambiance du temps des fêtes et de donner espoir aux personnes atteintes d'une maladie neuromusculaire. Pour mettre comme eux l'épaule à la roue du financement de Dystrophie Musculaire Canada, les intéressés sont invités à réserver des billets en composant le 418-285-29-27, 418-285-29-27. Le coût est de $20 par personne, mais les enfants de 12 ans et moins seront admis gratuitement. Deux fois valent mieux qu'une. Et il y aura également, pour terminer cette émission, j'ai envie de vous parler du dîner de Noël des membres du RAM. L'équipe du RAM est heureuse de vous inviter à participer au dîner de Noël le mardi 6 décembre. Avant le repas, Madame Nathalie Chartrand viendra nous parler des Jeux paralympiques. Médaillée de bronze à Barcelone en 92 et à Sydney en 2000, elle nous partagera son expérience. À 9 ans, je voyais, je regardais les Olympiques de Montréal et mon idole, Nadia Comaneci. Je me suis dit, moi aussi, j'irai aux Olympiques et je reviendrai avec des médailles. Alors, cette conférence sera suivie de la présentation de la programmation d'hiver 2017 au Centre Berthe Réaume. Tout cela aura lieu le mardi 6 décembre de 10h15 à 14h30. Le coût, $15, avec un repas traditionnel de Noël. Et puis voilà, on réserve au plus tard le mardi, donc avant le mardi 29 novembre, auprès de Mélanie Vanel. Un courriel à retenir, administration@ram2m.org. Merci à vous tous et à mon équipe, c'était Clotilde Sey. À lundi.